simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Ça chahute. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah ouais, je pensais que c'était toi qui allais commencer. Comment ça va, Denis?
Ça va bien.
Merci.
on est pas là pour ma santé.
Tout à fait. Non, mais on chahute parce que exceptionnellement, allez, Grégor, on va vous donner une bonne nouvelle. On n'est pas forcément coutumier d'y faire et c'est vrai que parfois ça peut être un peu barbant et triste d'écouter les Grégor puisque on vous annonce quand même et on vous fait la liste des horreurs de cette société de merde et de ce monde capitaliste que nous n'avons toujours pas réussi à détruire et à transformer, ou alors on n'est pas encore en courant, c'est normal, on est à l'intérieur, et donc on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors pour ceux qui nous suivent depuis maintenant un mois, un peu plus, six semaines je pense, on vous parle quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours de Zehra Courtay, cette réfugiée politique turque qui était en grève de la faim depuis bientôt 6 mois, pour contester d'une part l'annulation de son statut de réfugié politique, et puis d'autre part l'obligation de quitter le territoire français qu'avait pris à son encontre la préfecture du Val-de-Marne, du 94, voilà, j'ai appris ma géographie. Et donc, comme vous vous en doutez, puisque j'en ai parlé au passé, j'ai vendu la mèche, Zehra a gagné. Zehra a obtenu une décision de la Cour d'appel du tribunal administratif de Paris qui enjoint la préfecture du Val-de-Marne à délivrer à Zehra un titre de séjour d'une durée de 10 ans et l'annulation de son obligation à quitter le territoire français. En conséquence, Zehra a évidemment suspendu sa grève de la faim et par contre a décidé de maintenir une forme de mobilisation, d'une part pour récupérer son statut de réfugié politique et puis d'autre part pour que sa lutte serve d'exemple, de relais à tous ceux qui pourraient se retrouver dans des situations similaires, à savoir les personnes évidemment en délicatesse avec leur statut administratif et leur relation avec les préfectures à la fois de la banlieue parisienne, des départements voisins de la ville de Paris et évidemment la préfecture centrale d'Île-de-France. Mais aussi afin de utilisé le petit point qu'ils avaient créé, à savoir cette cabane qui avait été construite juste à côté de la porte du Faubourg Saint-Denis, en un petit point, en un pôle, de eux, ce qu'ils qualifient de résistance, puisqu'ils avaient dénommé leur tente, leur cabane, la résistante, Aldaliyet en turc, pour pouvoir s'échanger et essayer de constituer un espace dans lequel il pourrait y avoir des luttes de résistance à la fois de personnes qui ont des papiers ou qui n'en ont pas. Enfin bon, ils ont leur volonté d'utiliser leur mouvement, c'est vraiment tout à leur honneur, pour poursuivre et enclencher. Alors, jeudi, moi j'étais à Paris pour écouter la conférence de presse qui donnait devant cette fameuse tente. C'est une conférence de presse qui a été un peu longue, puisqu'on s'exprime en turc et on s'exprime en français, on traduit. Je vous ai proposé, j'ai extrait 5-6 minutes qu'on va écouter vite fait pour voir un petit peu ce que dit. Alors c'est pas Zera qui s'exprime, c'est Nézif, hein, Nézif Eski, qui était dans une situation similaire à Zera, puisque, enfin similaire à tout le moindre, puisque Nézif a été incarcéré en même temps que Zera en 2012, et Nézif était en grève de la faim et réfugié politique. Il souffre également d'une maladie grave au niveau de son cerveau, une aspagie cérébrale. Et Nézif s'était mis en grève de la faim en solidarité avec Zera. Il avait tenu 100 jours. Nézif était tombé à 68 kilos. Nézif mesure 1m85. Donc, plus la maladie. Hein. Donc, c'était vraiment hyper dur. Zera, alors évidemment, le fait d'avoir gagné lui a redonné de l'énergie, mais elle est à 35 kilos. Vraiment, elle est dans un état physique vraiment très fragile, quoi. Vraiment. Et ils le disent dans leur déclaration. En tant que militant et en tant qu'individu, ils n'avaient que leur corps à mettre en face de cette puissance qu'est l'État français et la préfecture. Et c'est aussi pour ça qu'ils se considèrent comme des révolutionnaires, comme des militants, parce que ils engagent tout leur être dans leur lutte. Alors, on va s'écouter Nézif, et puis on commentera, on reviendra sur certains termes qui sont employés par ces militants, puisque c'est une culture militante qui n'est pas celle de l'égrégore, qui n'est pas celle non plus des militants révolutionnaires de France. C'est normal, on n'est pas dans les mêmes conditions, on n'est pas dans les mêmes cultures et on n'est pas dans les mêmes espaces. On va écouter quand même ce qu'il a à dire, puisque ça reste quand même 6 mois d'enfer et 3 mois, enfin plus de 3 mois, 4 mois pour Nézif de lutte vraiment, vraiment acharnée. Camille, est-ce que tu peux essayer de lancer le son, s'il te plaît ?
Pardon, désolé. Cela signifie, bien qu'elle ait été jugée sur la base d'articles antiterroristes, Zera Portail n'a commis aucun délit depuis près de 10 ans après sa sortie de prison. Il n'a pas été possible de prouver qu'elle était membre d'une organisation terroriste comme le VHKPC ou le PKK. Bien qu'elle ait été jugée en vertu de la loi antiterroriste, son adhésion à ces organisations n'a pas été prouvée. C'est pourquoi cette décision a une valeur de jurisprudence. La décision du tribunal inclut le motif suivant. La préfecture a commis une violation des droits humains et une erreur juridique. Cela signifie... En 1, elle est tenue d'accorder aux personnes à expulser un délai minimum de 30 jours. La préfecture a violé cette règle. En 2, l'expulsion a été mise en œuvre sans le consentement et à l'insu de la personne concernée. En 3, les violations des droits humains dans le pays de renvoi ont été ignorées et la préfecture a agi à l'encontre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En 4, le tribunal, sans prendre au sérieux les preuves présentées par la préfecture, a lancé la procédure sans enquêter en qualifiant les informations provenant d'un site web de l'État turc liste grise des personnes recherchées, de fausses informations, sites falsifiés, et a ainsi commis une violation des droits humains. Ce que cela signifie pour nous, l'action illégale d'expulsion de la préfecture n'a pas seulement été dénoncée, elle a également été constatée par la décision du tribunal. À l'avenir, cette décision constituera une jurisprudence pour toutes les personnes dans cette situation. Oui, nous avons gagné, avec une tente de 9 mètres carrés et deux corps amaigris à 35 et 68 kilos, nous avons été au... Nous avons obligé l'impérialisme français à reculer. Nizib, qui souffre d'une maladie grave, a décidé d'entreprendre une grève de la faim illimitée et a ajouté sa faim à la mienne. Dans ce monde d'égoïsme, d'individualisme et de toutes sortes de dégénérences, nous avons proclamé aux amis et aux ennemis que la camaraderie est le lien le plus sacré et le plus puissant. Face à la France qui a voulu criminaliser notre résistance en le qualifiant de terroriste pendant 219 jours, nous avons grandi en nous rencontrant avec tous les secteurs de la population et nous avons teasé notre résistance avec le peuple. Face à l'impérialisme français qui, telle une pieuvre, a voulu effrayer et rééduquer toutes les couches du peuple avec ses tentacules, nous avons montré qu'il est possible de résister même dans une petite tente. Notre tente est devenue le symbole de la défaite de la pieuvre. Nous avons teasé cette résistance, une première en France avec le peuple, et nous avons écrit l'histoire. Nous avons remporté une première victoire contre l'impérialisme. À partir d'aujourd'hui, nous annonçons que nous mettons une pause à notre grève de la faim. Et nous voulons déclarer que nous résisterons, que nous retisserons notre chemin de résistance jusqu'à l'obtention de notre droit de séjour. Là où il y a la résistance, c'est là où est le centre du monde. Notre tente, qui est le centre de la résistance, continuera d'être le quartier général de notre future ligne de résistance. Avec cette tente, symbole de notre résistance, nous continuerons d'être une source d'espoir pour les peuples. Nous avons remporté une victoire, c'est maintenant au tour de notre deuxième victoire. Pour cela, nous allons encore élargir notre combat pour la justice, pour obtenir notre droit de séjour. Nous allons renforcer encore notre résistance. D'ici, nous transmettons nos remerciements à tous ceux qui ont contribué à cette victoire et nous voulons lancer un appel. Nous sommes le peuple. Le peuple est l'arme la plus puissante du monde et la seule force capable de vaincre l'impérialisme est le peuple. Alors que l'impérialisme veut détruire notre honneur, notre volonté, notre avenir en nous dépossédant un à un de nos droits, nous n'avons pas d'autre choix que de résister. C'est pourquoi nous voulons que notre fin de 219 jours soit un appel à la résistance. Pour tous les travailleurs et notamment pour les travailleurs français, nous craignons rien. Quiconque subit une injustice, à qui ses droits sont volés, nous l'habitons dans notre tente. Et nous voulons qu'il résiste côte à côte avec nous. Depuis notre tente de résistance de Paris, qui nous sert de guide en ce sens, nous nous adressons aussi aux impérialistes. L'engagement révolutionnaire est la veine la plus noble de l'humanité. Vous ne pourrez pas nous soumettre. Vous ne pourrez pas soumettre les peuples. Vous ne pourrez pas mettre fin à nos traditions de résistance. Nous allons créer de nouvelles valeurs et développer nos traditions de résistance, même en Europe. Partout où vous vous dressez face au peuple, nous continuerons de nous dresser face à vous. Avec l'enthousiasme de cette première victoire, nous saluons nos camarades qui résistent dans les prisons isolées de type Puy et tous les prisonniers politiques dans le monde. Nous nous souvenons avec respect de nos martyrs qui ont été nos enseignants. Et nous transmettons nos remerciements à nos camarades, à notre grande famille qui fait de nous ce que nous sommes. Les résistants de la tente, de la résistante de Paris, Zéra Courtaille et Nizib Esqui. Nous remercions également énormément Thomas Porte.
Ouais. Non, oui, ben oui. Donc voilà, hein, c'était une. On va revenir un petit peu sur les détails en termes de droit. Alors, et évidemment, il y a à la fois une certaine grandiloquence et en même temps quelque chose d'extrêmement simple dans ce qu'ils disent. Alors il y a cette grandiloquence avec bien sûr tous les termes qui sont employés qui peuvent apparaître comme un peu pompeux, mais ce qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'on a ici deux réfugiés politiques turcs qui avaient des OQTF, qui sont pas vraiment beaucoup appuyé par, on va dire, l'ensemble des organisations progressistes, voire de gauche, qui décident de prendre une décision où ils mettent leur santé, voire leur vie, en jeu, dans la balance, et pour qui les conséquences sont parfaitement claires. C'est-à-dire que soit ils retournent en Turquie et la répression qui s'annonce, elle est d'enfer, ça veut dire la prison, voire la mort, soit par l'intermédiaire de leur grève de la faim, ils compromettent de manière définitive et incompressible leur santé, voire le risque de leur vie. Et voir ces deux personnes, et même quelque part ceux qui étaient autour, relever le défi de ça, c'est quand même assez... assez impressionnant, quoi. Et en plus, je vous l'ai répété à plusieurs reprises, c'était pas triste. C'est-à-dire que malgré le ton qui peut être grandiloquent, dans la déclaration politique, un peu formelle, évidemment, après une conférence de presse, hein, c'est toujours ça, c'est rituel, quoi. Mais au quotidien, cette tente, pour le coup, elle était plutôt chaleureuse et on n'avait pas l'impression de se trouver dans un mouroir. On avait des gens qui partageaient une lutte et qui vous accueillaient. C'en était même presque gênant parfois. Alors, on revient sur deux, trois points en termes de droit. Hein. Ça, c'est quand même très intéressant parce que la décision du tribunal, de la cour d'appel du tribunal administratif, elle est quand même assez sévère en termes de rhabillage de la préfecture. C'est-à-dire que elle reconnaît que Vera Courteil a été condamné sur des lois dites antiterroristes, sur la base d'articles antiterroristes, mais elle constate que Zera, après avoir purgé sa peine, donc ses 5 ans de prison, depuis 10 ans, elle n'a pas commis de délit, que ce soit en relation avec ces lois, ces articles-là, ou même d'autres types de délits, et que donc on n'a rien à lui reprocher, puisqu'elle a déjà purger sa peine. Donc la peine de prison en soi suffit, il n'y a pas besoin de rajouter une peine à la peine de la peine de la peine, etc. Que la peine, c'est en prison, c'est pendant la prison, c'est pendant l'instruction et le procès, et c'est pas après, c'est pas quelque chose où on sort après avec un sac sur lequel on a tatoué sur le front condamné pour action terroriste. Donc on n'entre pas dans la condition de la préfecture de se mêler de la loi et de la justice dite pénale. La préfecture, elle fait de l'administratif, point. Elle fait pas de la politique. Alors bon, ça c'est l'énoncé. Oui, je vois que tu soupires. Ça, c'est ce qui est énoncé. Hein. Après, dans la pratique, c'est autre chose, on est d'accord. Deuxièmement, elle n'a pas été capable de prouver qu'elle était membre d'une organisation dite terroriste comme le DHKPC ou le PKK. C'est-à-dire que quand on affirme des choses, il faut être capable de les démontrer en termes de droit. C'est pas comme Nunez dit, des faisceaux d'indices, ou parce que j'aime pas les gens, ou parce qu'ils ont des têtes de turc, ou parce qu'ils ont des têtes comme ci ou comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et quand on accuse les gens de quelque chose encore plus grave, de faire partie de l'organisation terroriste, il faut amener des choses sur la table. Or, pour ça, il faut être capable de faire un travail, c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut produire des choses. On peut pas simplement énoncer des choses. Donc quand on met des accusations et qu'on a la prétention d'expulser des gens vers un pays où risque la mort, il faut produire, il faut, je le répète, travailler. On voit là, par exemple, que la procureure et la préfecture sont renvoyées dans leur corde lorsque la cour d'appel dit que Le tribunal, sans prendre au sérieux les preuves présentées par la préfecture, a lancé la procédure sans enquêter, en qualifiant les informations provenant d'un site web de l'État turc de fausses informations et de sites falsifiés. La cour d'appel est tout à fait capable de comprendre que ce site est falsifié et que ce sont des fausses informations, mais elle demande à l'accusation, à la préfecture, de produire des éléments, afin de lui démontrer que c'est falsifié. C'est pas sur son jeu. Et en plus, elle dit que l'expulsion a été mise en œuvre sans l'information et sans le consentement de la personne concernée. C'est-à-dire que l'annulation du statut de réfugié et la mise en place de l'OQTF n'a même pas donné l'information à Zehra. Même pas. C'est quand elle est fait renouveler son titre de séjour qu'on lui a dit « Mais madame, vous avez une OQTF ». Donc c'est vraiment de l'amateurisme total et c'est vraiment un mépris total. Et donc... le jugement de la cour d'appel est assez sévère puisque il estime que un, la préfecture a agi à l'encontre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 10 de la Convention de Genève, et cela constitue une violation des droits humains. En conséquence, le tribunal, pour faire simple, pas répéter la cour d'appel toute la soirée, le tribunal demande à la préfecture d'accorder dans les 30 jours, une annulation de l'OQTF, bon ça c'est clair, mais aussi et surtout un titre de séjour d'une durée de 10 ans.
Donc, ce qu'elle a le droit.
Ah ben oui, de fait. Mais si tu veux, je veux dire, par rapport à la situation antérieure où on avait une terroriste qui devait être expulsée sans délai en Turquie, on passe à vous n'avez pas démontré qu'elle avait fait quoi que ce soit de mal, en relation ou pas avec du terrorisme, et on a un titre de séjour de 10 ans, donc c'est quand même assez important, assez énorme, quoi. Donc là-dessus, on peut espérer que cela serve effectivement de jurisprudence et puis de lien pour ça. Enfin bon, voilà.
Ça peut effectivement servir de jurisprudence pour des militants politiques. Le problème aujourd'hui au niveau des cartes de séjour, et moi je le vis bien au niveau de ce que j'essaye de faire sur Reims au niveau de la permanence juridique, c'est qu'il y a beaucoup de demi-immigrés qui ont des cartes de 10 ans et qui, au moment de la renouveler, n'arrivent pas à la renouveler. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bon, alors, il y a quand même une femme, par exemple, que j'ai rencontrée là, qui a perdu tous ses droits pendant 6 mois. Pendant 6 mois, elle avait un enfant handicapé, elle a tout perdu. Parce que tout simplement, sa carte n'était pas renouvelée. Et elle n'était pas renouvelée, la demande avait été faite et tout. Hein. Mais ils sont tellement dans une impasse totale au niveau technique, la France, au niveau de ses cartes de séjour, ils sont incapables, effectivement, d'être dans les temps. Et quand je vous dis dans les temps, 6 mois de retard pour une carte, c'est quand même lourd. Alors bon, actuellement, c'est la queue à la préfecture pour connaître là où en est leur demande de renouvellement. Alors la préfecture, de temps en temps, dit « Bon, bah, écoutez, si vous avez des ennuis, on va vous prolonger l'ancienne. » Mais 6 mois, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors, bon, je pense que c'est pas hasard non plus. Hein, faut pas non plus... croire que c'est que technique.
Non, mais c'est la politique. Concentration de différents éléments. Alors déjà, les effectifs et la technicité des services publics, ce qu'est la préfecture, hein, sont dans un état lamentable. Il n'y a pas assez de monde, les gens sont payés comme des chiens, les statuts sont pourris, etc. Il n'y a pas de motivation. Enfin bon, c'est les services publics, hein, quiconque a recours à ce type de service voit très bien de quoi je parle. Évidemment, il y a différentes circulaires qui sont pas des lois, mais il y a différentes circulaires qui sont venues durcir les conditions de délivrance de ces titres de séjour. Et bien évidemment, l'ensemble des lois qui sont venues transformer, modifier le code d'entrée et de séjour, le fameux CESEDA. On en est à plus de 10 hein, maintenant sur les 15 dernières années. Hein, donc on n'a même pas le temps d'assimiler les dernières transformations, qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et puis tout ça, ça vous crée un climat, puisque... Vous savez, un des baratins particuliers sur les médias, c'est évidemment la présence de milliers et de milliers et de milliers de personnes avec des OQTF. On a désormais créé un nouveau concept dans le champ politique, l'OQTF, les OQTF. Hein, alors désormais, on est tenu par son statut administratif. On attend avec plaisir d'attendre les mineurs, les majeurs, les retraités, les vieux. Voilà, il y a une négation des individus et des êtres qui sont derrière ces statuts administratifs. Et donc ces OQTF ne seraient pas, parce que tu sais bien qu'on est dans un pays vachement laxiste, hein, hyper laxiste, ne seraient pas évidemment concrétisés, puisque non seulement les pays nous refusent les visas, les laissez-passer consulaires pour pouvoir accueillir les gens qui sont en OQTF.
Là sont visés l'Algérie, bien évidemment, et puis d'autres pays, en particulier pays arabes. Ouais, mais ça,
c'est ça. Et alors, quand on regarde en fait les chiffres, on voit qu'il y a une explosion de la délivrance d'OQTF. Et si on compare avec les autres pays européens, on voit qu'on est à des niveaux 5, 6, voire 10 fois plus important que, ouais, par exemple, l'Allemagne, qui a un volume d'immigration comparable, voire supérieur. Et donc, le constat, il est assez simple, en fait, quand on prend deux secondes pour réfléchir et pour faire un peu de statistiques et de mathématiques, c'est que plus il y a des gens qui sont sous statut d'OQTF, moins la possibilité, à moyen constant, moins la possibilité de les expulser, elle est possible. Donc moins il y a de personnes sous OQTF qui sont renvoyées. Puisque si tu mets 50 personnes pour faire un travail où il y a 10, ça marche. Mais s'il y a 10 000, ça peut pas marcher. Donc forcément, la statistique de non-application des OQTF, de non-exécution des OQTF, elle augmente. Elle augmente. Et évidemment, au lieu de poser la question, on a aujourd'hui, sur des médias, des gens qui nous proposent de faire des rafles.
Ah oui,
tout à fait.
Voilà,
de faire des rafles type ICE aux États-Unis. Alors certes, il y aura du grabuge, parce que quand on fait des rafles, on chope tous les poissons, et puis on chope les dauphins aussi, hein. C'est les fameux grands filets. Mais voilà aujourd'hui le niveau du débat public où c'est impossible d'avoir ça. Mais le résultat, il est là, et il y a toujours possibilité de résister. On l'a vu au cours de ces 6 mois, et puis de ce dénouement heureux qu'on est quand même content d'avoir. Voilà, on va s'écouter un peu de musique, puis on va parler d'autre chose. Je pense que ça nous prendra la suite et la fin de notre émission. On verra bien ce qu'il en est. Camille, allons-y pour cette magnifique musique d'Orange Blossom. Voilà, qui va commencer, que je vais dédier à tous les habibis du monde. Ils se reconnaîtront. Voilà. We'll be right back.
جرحنا بحبه هو اللي داوي يجرح سامح وانسى يا قلبي اللي بيجرح اكيد هتلاقي في يوم شيء يفرحك سيب نفسك لأحلام الدنيا حلوة قدامك
Et ben voilà. alors en deuxième partie, on voulait faire plein de choses, mais on va commencer par une actualité chaude puisque Aujourd'hui, c'est ouvert un procès devant le tribunal correctionnel de Paris, un procès qui devrait durer 3 jours, aujourd'hui, demain et puis jeudi. Un procès qui, presque étonnamment, est un petit peu médiatisé. À contrario des différentes affaires similaires qui ont pu avoir lieu au cours de ces dernières années. Alors, ce procès, c'est le procès de 9 CRS, membres de la CRS numéro 43. Nous avons 99 compagnies de CRS Cocorico en France. On les numérote comme ça, c'est pas par rapport au département, hein, puisque à Reims, nous avons la CRS 33, c'est pas le 51. Voilà, bonjour hein, aux CRS qui nous écoutent depuis leur caserne, là-bas, là, du côté de Croix-Rouge, de Croix-du-Sud. Et donc, le procès de ces 9 CRS, la CRS 43, sont accusés, sont jugés pour avoir, la presse nous dit, matraqué violemment des manifestants dans un Burger King en marge de la manifestation des Gilets jaunes en décembre 2018 à Paris. Oui, alors, on peut dire ça comme ça. Alors, en fait, sur les faits, le 1er décembre à Paris a lieu donc le deuxième acte,
le troisième acte,
des Gilets jaunes. Cette journée se transforme en journée d'insurrection populaire où des dizaines de milliers de personnes, on estime aujourd'hui qu'on aurait été entre 90 et 130 000 dans les rues de Paris ce jour-là. Alors, compliqué parce que la manifestation a duré toute la journée, donc il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis, etc. Mais bon, un nombre assez important qui vont exprimer leur colère de manière vive et qui vont se retrouver bloqués au niveau de la place de l'Étoile principalement et des Champs-Élysées, donc de l'avenue de la Grande Armée dans un second temps, puisque eux, ce qu'ils voulaient, c'était aller devant les ministères, devant l'Assemblée nationale, devant l'Élysée et devant Matignon. Et devant ce blocage va s'en joigner des affrontements très violents entre manifestants et forces de l'ordre, et également des destructions dans la ville de Paris. Alors, tout le monde ne participe pas à ces destructions et à ces affrontements, hein. Il y a évidemment une masse de gens qui est là pour manifester et qui se retrouvent pris dans cette merde, dans cette histoire. Et on est sur des niveaux de gazage rarement atteints, à la fois en termes de volume, mais en termes de durée aussi, avec une situation de chaos dans l'ensemble de la ville, qui fait que lorsque la nuit tombe et lorsqu'on est au mois de décembre, hein, donc ça va vite, à 5h il fait nuit, il peut y avoir assez facilement des scènes de panique. Et devant cet état de fait là, il y a des gens qui se retrouvent vraiment oppressés par la NAS, par les gaz lacrymogènes, donc qui ont peur et qui vont se réfugier dans un Burger King en brisant une porte-fenêtre hein, qui est là. Donc, ils sont dans le Burger King, ils récupèrent, entre guillemets. Il y aura finalement pas de destruction dans le Burger King. Il semble qu'il y aurait 2 canettes et une bouteille d'eau qui auraient été prises. Ça te donne le niveau de la prédation quand même des gens. Puis en plus, il semble qu'il y a encore des employés du Burger King, notamment de la direction, qui vont descendre assez vite pour voir et gérer le truc, mais que ça se passe plutôt bien. Et à ce moment-là, donc des membres de la CRS 43 vont entrer dans ce Burger King et vont pratiquer une ratonnade.
Ouais.
Alors,
un tabassage incroyable.
Ouais, un tabassage en règle, comme il faut. Alors, c'est du tabassage de CRS. Donc, on n'est pas sur des violences policières de lâches, comme avec la BAC ou avec des compagnies de sécurité intervention. C'est-à-dire, on ne tire pas sur les gens, on ne tasse pas sur les gens. À la CRS, on sait faire ça. Hein. Ça fait partie des traditions, ça fait partie de la formation, ça fait partie du métier. On tape avec les poings, les pieds et la matraque, et on dégage tout ça, on nettoie, on tape les gens quand ils sont par terre. on tape les gens sur les parties qui font mal, hein, les jambes, les genoux, les côtes, parfois la tête. On utilise ses pieds parce qu'il y a des jambières, ça fait mal. On insulte, on met des tartes dans la gueule. Donc, c'est du bon maintien de l'ordre à la française, comme on sait faire, à l'ancienne, hein, formé, etc. Et ça, ça va durer quand même un bon quart d'heure. Il y a environ 70 personnes qui vont manger sévère. Bon, on va avoir des blessures assez importantes, mais pas fondamentalement aussi graves que ceux qu'on pourrait avoir. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'aspect terreur, hein, que les gens vont ressentir à ce moment-là, puisque la plupart d'entre eux n'avaient jamais eu affaire à la police et parfois même étaient persuadés que la police ne leur ferait pas de mal si eux, ils n'en avaient pas fait de mal. D'ailleurs, on les voit sur les agences de vidéosurveillance. C'est des gens qui arrivent comme des fleurs devant les forces de l'ordre en tendant les bras, en expliquant que ils ont rien fait de mal, quoi. Alors, pourquoi cette affaire est jugée? Alors, c'est évidemment par rapport à la masse de gens qui étaient là. Et puis, parce que aussi, il y a deux éléments qui sont intéressants, c'est que c'est filmé par un reporter à l'extérieur. Dans cette journée qui avait été extrêmement médiatisée, c'est passé en direct à la télé. Donc tout le monde a pu le voir. Assez rapidement, ça a été publicisé. Et puis, évidemment, des images de vidéosurveillance à l'intérieur du Burger King. Donc là, il n'y a pas de possibilité de nier. Et puis, devant le nombre de plaintes qui vont être déposées, il y a une obligation de traitement. Alors, quand même, on est quand même sur des choses quand même assez énormes. Parce qu'il aura fallu 7 ans
pour identifier.
Pour déjà aller jusqu'au bout de l'instruction, c'est-à-dire penser que ça nécessitait une instruction et un procès, parce que évidemment les accusés ont fait utiliser tous les recours possibles. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce genre de choses? Est-ce qu'on va juger l'ensemble du maintien de l'ordre et l'ensemble de la hiérarchie? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh ben non, on va juger des individus, et en l'occurrence 9. Alors pourquoi 9? Mais parce que c'est les 9 connards qui se sont fait gauler, la main dans le pot de confiture, et qui se sont fait reconnaître. Parce que évidemment, les CRS ne sont pas passés par la case IGPN, ils ont pu continuer à exercer. Et lorsqu'on a demandé des explications à leur supérieur hiérarchique, ça a été compliqué. Parce que les supérieurs hiérarchiques n'ont pas été en capacité de reconnaître leurs
oies.
Ouais. C'est donc d'autres services qui ont été amenés à identifier les individus, en l'occurrence l'IGPN. Ça commence très très bien, quoi. Très très bien, quoi. Alors, pour vous donner un niveau de violence, hein, je vous le dis aussi, hein, y a un des membres là. Je le répète, hein, 13 CRS hein, qui se sont engouffrés dans l'établissement. Parmi les manifestants frappés, hein, y en a un qui, d'après les enquêteurs, a reçu 27 coups de matraque par 6 policiers différents, y compris lorsqu'il était à terre. Il y a un journaliste qui portait son brassard presse, qui lui aussi en a pris une. Et le commencement de l'ambiance a été assez salé parce que les CRS sont tous arrivés à l'audience en uniforme, avec pour certains avec pour certains cordons sur l'épaule. Donc cordon, ça veut dire en général les décorations, en gros les notifications. Donc les avocats des parties civiles soulève un incident, puisque il y a quand même un gros problème d'égalité entre les prévenus et les parties civiles, quoi. On n'est pas au théâtre là, ouais. C'est pas en train de truc, et justement la justice, elle juge des actes, elle juge pas des fonctions,
ouais.
C'est pas la peine d'essayer d'impressionner les gens et de continuer à exercer sa terreur. C'est bon, ça ils l'ont déjà fait le 1er décembre 2018, hein. c'est pas la peine de continuer. Et d'ailleurs le président de l'audience revient sur le point de l'uniforme, et l'avocat des neuf prévenus, ce sont des prévenus là, c'est pas des commandants, il n'y a pas de hiérarchie, ils n'ont pas à faire le truc. Donc l'avocat des flics, hein, maître Laurent Franck-Lénard, donc c'est quand même ça, Laurent Franck-Lénard, c'est quand même un type qui vit grâce à vos impôts, hein, faut quand même le savoir. Donc c'est le avocat des flics, y a pas de problème, ça fait 15 ans qu'il fait toutes les procédures et qu'il se fait payer en fonction d'eux. Je crois que lui-même est réserviste et titulaire d'un permis, et d'un port d'armes. Alors, il affirme... S'ils comparaissent en uniforme, c'est parce qu'ils interviennent en tant que personne dépositaire de l'autorité publique. Il rappelle que les CRS sont intervenus en tant qu'agents de l'État en décembre 2018 et qu'ils sont poursuivis comme tels. Donc, l'avocat des parties civiles lui rétorque, alors à ce moment-là, vous demandez aux chefs de service et à leurs commandants de produire une attestation et une autorisation écrite. Voilà. Donc, et là, on voit déjà la stratégie qui est posée par Laurent Franck-Lénard, c'est-à-dire, en fait, c'est pas nous, c'est la hiérarchie. Et d'ailleurs, ils sont en service, répond maître Franck-Lénard, puisqu'ils sont arrivés avec les véhicules de fonction. Vous voyez ? Et d'ailleurs, ils sont en service, puisque là, c'est sur leur temps de service. Ils sont payés. Bon. Le président va décider que aujourd'hui ils peuvent pas comparaître en tribunal en uniforme. Donc les CRS sont invités à les changer dans leur véhicule de service. On espère que vu qu'ils bossent, ils ont pris leur guenille avec eux. Alors certes, c'est des guenilles de civils, mais bon, hein, exceptionnellement, ils devront faire comme tout le monde, puisqu'ils passent au tribunal comme tout le monde. Voilà. Bon, alors, cette audience, elle va être intéressante et importante. Alors, d'une part, elle va nous permettre de voir que, évidemment, l'enquête a été totalement bâclée et que, d'autre part, on a des gens qui sont incapables d'assumer leur responsabilité, quoi. D'ailleurs, lors de la diffusion des images qui témoignent de la violence de l'intervention et du tabassage, les flics ne baissent pas la tête, regardent, ils assument totalement, alors que du côté des parties civiles, on est vraiment dans la... On recommence le trauma, quoi, clairement. Et là, on a des gens qui font les durs, et puis finalement, lorsqu'on va leur demander de s'expliquer, voilà, des gens qui n'ont pas de capacité à expliciter pourquoi ils réagissent comme ça. Ah si, j'ai 25 ans de carrière, j'ai eu deux fois peur dans ma vie, une fois à Villiers-le-Bel pendant des émeutes urbaines, et puis cette fois-ci avec les gilets jaunes, la peur viscérale de mourir ou de voir un collègue tomber, j'ai essayé de faire mieux que j'ai pu ce jour-là. J'ai pas fait attention qu'il y avait du monde dans le fast-food. J'ai entendu mon commandant qui demande de entrer et d'évincer les gens à l'intérieur car on suppose qu'un pillage est en cours. Je m'en reconnais pas. Là, j'ai les collègues qui essayent d'évincer les gens. On sait pas ce que ça veut dire, évincer pour lui. Moi, je suis au milieu du restaurant, je sers à rien. Quelques minutes avant, j'ai perdu mon casque avec une empoignade, mais je continue. Donc finalement, il n'a pas peur pour sa vie, puisqu'il rentre dans un affrontement sans son casque. Finalement, le président lui dit « Mais vous prouvez que c'est violent ?» Manifestement, je peux pas dire qu'il y ait des pillages en cours. Bon, il y a clairement une méprise de notre part sur les intentions des manifestants. Rappelons que ces individus sont armés. J'avais plus la lucidité nécessaire. J'étais fatigué. Bon, visiblement, plutôt fatigué du cerveau que fatigué des bras. Voilà. Lorsqu'on lui dit, mais vous n'utilisez pas vos outils pour vous utiliser vos pieds. Oui, parce que la seule chose que je trouve à faire, c'est de le repousser en lui donnant des coups de pied dans le but de le faire partir. Donc cet individu qui s'appelle Cyril D, malheureusement on n'a pas les prénoms puisque eux ils ont le droit de rester anonymes, tandis que vous, si vous voulez de la bouffe dans le magasin du coin, vous pouvez être sûr d'avoir votre nom en 4x3 dans le canard local, il n'y a pas de problème quoi. Il est major de police, donc il a des fonctions d'encadrement, de commandement et donc d'officier de police judiciaire. Il est susceptible de rédiger des actes de justice. Vous voyez le niveau que ça prend. Et alors, bon, on va continuer à avoir de la plainte, hein, des gens qui je regarde les déclarations, mais c'est terrible parce qu'on a des gens qui disent je m'excuse peut-être de l'avoir confondu avec un casseur, mais j'espère qu'il comprend qu'on pouvait pas savoir que c'était un individu non hostile, donc un individu qui arrive avec en tendant les bras en l'air, en mettant les mains en l'air, voilà, c'est pas un individu non hostile pour un CRS des bases, donc du coup la sanction elle est immédiate, je l'ai peut-être confondu avec un casseur, donc je vais casser la gueule, voilà, c'est pas méchant, hein, c'est juste de la confusion en fait, donc on espère pour lui que quand il rentre il allume la lumière dans le couloir, parce que s'il confond sa femme et ses enfants avec des individus non hostile ou si c'est pas, faut vraiment faire attention avec lui quoi. Bon, ça va continuer comme ça pendant toute l'après-midi, mais à 18h, on va commencer à rentrer dans un truc un peu intéressant, parce que l'avocat des parties civiles, donc Maître Halimi, va entrer un peu dans le dur, notamment au niveau du commandement et du major, et va commencer à essayer de poser les questions. Alors, lorsque il demande si les gens qui sont là sont des coupables ou des victimes, le major dit non, mais c'est des victimes comme nous. Ils sont victimes de nos agissements et du contexte comme nous. Ah, je savais pas qu'on pouvait être victime de ses propres agissements, mais bon, c'est intéressant. Mais Ari Halimi va aller un peu plus loin en lui demandant, et malheureusement l'audience se poursuit, mais elle a continué pendant le début de l'égrégore, donc j'ai pas forcément d'éléments, mais lorsque la question va être posée au commandement, donc au majeur, si pour lui il est en train d'effectuer du maintien de l'ordre, alors le prévenu, le major, lui répond que oui. Lorsque l'avocat des parties civiles lui demande quelles sont les règles de droit en matière d'usage de la force, il répond que, étant donné les circonstances, il n'y a pas de formation pour ce genre d'événement et que, arrivé à ce moment de la journée, on lui avait dit « vous faites ce que vous avez à faire ». Nous, je cite, hein, nous sommes dans une situation inédite, les règles ont changé, je n'ai plus d'informations ni de cadres à recevoir et je ne reçois plus de cadres ni d'informations. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces gens avaient à la fois intégré que la brutalité faisait partie du maintien de l'ordre. Ils étaient passés à cette étape-là, et lorsque l'encadrement lui a demandé d'entrer dans ce Burger King et qu'elle ne lui a pas donné les instructions, à savoir comment traiter ce rassemblement à l'intérieur du Burger King, enfin ce rassemblement, ces gens, ces individus, alors ils ont su qu'ils pouvaient à la fois, on va dire, éponger la journée qu'ils avaient passée, donc se venger, se lâcher, clairement, et en même temps faire passer le message que ce cassage de gueule, ce tabassage, était une forme de maintien de l'ordre, puisqu'elle avait une vocation pédagogique, c'est-à-dire que si vous manifestez dans les cadres pas dans les cadres qui sont autorisés parce que nous on décide, alors vous vous ferez terroriser par nos agents et par nos ordres. Et j'espère que c'est là qu'on va aller, parce que fondamentalement, ces individus vont potentiellement être condamnés. Bon, pas grand-chose, hein, faut pas se leurrer. Mais il est clair que la stratégie de la défense, enfin de leur défense, va être de déporter l'accusation, la responsabilité sur la hiérarchie, sur le fameux contexte. Hein, vous savez, hein, faut comprendre le contexte. Donc quand on tabasse, faut comprendre le contexte. Des gens dans un restaurant, faut comprendre le contexte. Quand on tire sur des gens avec des armes non létales dans la gueule, faut comprendre le contexte. Quand on tue des adolescents d'une balle dans le cœur, dans une voiture, faut comprendre le contexte, faut prendre en charge le contexte. Donc, moi, ce que je dis, c'est que lorsqu'on sera passé devant les tribunaux, ben on expliquera qu'il faut comprendre le contexte. Donc, le contexte, c'est quoi ? C'est 4 millions de pauvres dans ce pays, un enfant sur 5 victime de violences sexuelles, des enfants qui subissent des violences. On va arriver à la fin de la trêve hivernale, 9000 personnes de plus expulsées cette année, avec près de 30 000 personnes dans la rue, dont 5 000 enfants. Voilà, c'est le contexte aussi, donc c'est aussi pour ça qu'on agit comme ça. Donc peut-être que, je ne connais pas la technique de la défense, mais peut-être qu'il va être amené à citer justement les responsables politiques et les responsables de la hiérarchie pour poser clairement la question politique et la question du maintien de l'ordre, parce qu'il est clair qu'en termes de questions individuelles, il y a peu de chances que ces gens soient condamnés à quelque chose. Alors, je pense que c'est important pour les gens qui ont déposé plainte et qui ont besoin d'avoir du réel et du concret et du matériel en face d'eux, d'avoir une vision d'eux. Mais si on ne pose pas la question politique, il est fort à probable que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que dans les mêmes conditions, eh ben, on aura la même chose, quoi. Enfin, on va suivre. Le procès dure 3 jours. C'est plutôt bien relayé, donc on peut aller voir par-ci par-là. Il y a évidemment les comptes Blue Sky, les comptes Twitter, même si Twitter, c'est pas terrible, des différents journalistes qui suivent le procès et du cabinet à associer, donc Ari Halimi, un cabinet qui n'est pas spécialisé, mais qui fait souvent des violences policières, qui traite souvent ce genre de cas, donc qui sait à peu près gérer le truc. Du coup, on a beaucoup d'indices sur comment ça se passe. C'est de là que j'ai trouvé mes sources. Et je pense que le rendu sera assez rapide, puisque c'est un procès qui dure 3 jours en correctionnel, donc ça va quand même aller assez vite, sauf si on tombe sur un truc assez impressionnant. Et on vous tiendra évidemment au courant. Voilà.
La semaine prochaine. Voilà. OK.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de... ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur 1, sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Engagé pour l'éducation populaire.